Les vraies voix Sud Radio jusqu'à 20h. Et le mardi, c'est l'emploi.
C'est dingue, c'est dingue. On parlait de bronzage. Qui est là? Philippe David.
Moi, j'ai bronzage Jacob Delafont, cher ami.
Ça vous va très bien. Alors, Jacob Delafont, plus personne sait qui c'est.
Ah bon, parce que pour vous, les gens ne se lavent pas. Ils ne voient pas dans leur lavabo marqué Jacob Delafont.
Plus personne sait qui c'est, je vous assure.
Bon, c'est une marque de lavabo, voilà.
Ah, bon, d'accord. Très bien, très bien.
Christophe, vous seriez prêt
à
travailler
plus? Par exemple, DJ Falson me dit, je ne savais pas.
Mais oui.
Tout le monde n'a pas la même marque de lavabo à la maison, pardon.
Oh bah écoutez, oui, c'est vrai qu'il y en a d'autres. Mais les autres, moi je préfère citer les marques françaises, donc j'ai cité une marque française, cher ami.
Leroy et Bock, c'est bien Leroy et Bock.
Villeroy et Bock, oui, c'est aussi Villeroy français, exactement.
Pardon, oui.
Exactement, absolument. C'est bien aussi, c'est très bien, oui. Bon, vous savez, pour se laver, c'est suffisant.
Oui, c'est vrai. On va faire une heure d'émission là-dessus. Allez, c'est parti, en avant.
Merci Christophe. Ouais. Alors que le monde va, selon le Fonds monétaire international, être confronté à la pire dépression depuis la Grande Dépression des années 30, une proposition revient régulièrement, il va falloir travailler plus. Le patron du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux, déclarait dès le 10 avril « Il faudra bien se poser la question tôt ou tard du temps de travail, des jours fériés et des congés payés pour accompagner la reprise et faciliter, en travaillant un peu plus, la création de croissance supplémentaire ». Le patron des sénateurs LR, Bruno Retailleau, embrayait en proposant la semaine de 37 heures payées 35, tandis que la semaine dernière, Agnès Verdier-Molinier de l'IFRAP déclarait dans une interview à Midi Libre « Il faut travailler plus tout au long de l'année, tout au long de la vie ». Pourtant, alors que le nombre de faillites et en conséquence le nombre de chômeurs va exploser, ne faut-il pas envisager d'autres pistes pour qu'un maximum de personnes ne se retrouvent pas au bord de la route? Ces pistes, nous allons les explorer ensemble ce soir, sans éluder la question d'une éventuelle hausse du temps de travail. D'où la question du débat des VV de l'emploi. Pour sortir de la crise, va-t-il falloir travailler plus? Et pour le moment, vous êtes 85% à dire non sur Facebook et 74% à dire non sur Twitter. Et vous pouvez bien évidemment participer avec nous au 0826 300 300. Pour en débattre tous les mardis, Jérôme Laverny, directeur du réseau national Mission Emploi. Bonjour Jérôme.
Bonjour Philippe. Bonjour à tout le monde.
Sébastien Lay, entrepreneur et économiste à l'Institut Thomas More. Bonjour Sébastien.
Bonjour.
Philippe Royer, président des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, bonjour.
Oui, bonjour Philippe, bonjour à tous.
Bienvenue sur Sud Radio et Joseph Touvenel, vice-président de la CFTC, bonjour Joseph.
Eh bien, bonjour à tous.
On va commencer avec vous, Jérôme Laverny, comme vous êtes avec nous tous les mardis. Travaillez plus, il y avait un débat sur Renault il y a quelques minutes dans Les Vraies Voix avec Christophe Bordet et ses sociétaires. Travaillez plus si on ferme les usines, parce que Renault risque de fermer 4 usines en France, est-ce que ça veut dire quelque chose?
C'est à la fois consternant, affligeant, mais en même temps passionnant, ces espèces de cantilènes qui reviennent à intervalles réguliers de travailler plus ou travailler moins, hein, parce qu'on a le pendant aussi de l'autre côté de la barrière. Consternant parce que si véritablement il y avait là la piste à une sortie de crise économique, j'entends, qui serait salvatrice et qui permettrait des résultats bienheureux, ce serait tellement simple. Pour autant, moi, j'y vois quand même. En écho à l'émission de la semaine dernière qui était consacrée au télétravail et où il avait écrit question notamment de cette espèce de climat de suspicion qui règne parfois comme un frein justement au développement et à la pérennisation du télétravail maintenant la fête est finie, les congés sont terminés, revenez au travail. Alors que précisément si les gens ont télétravaillé, parfois ils l'ont fait de façon encore plus intense qu'ils ne le faisaient de façon présentielle. Bien, il y a cette espèce de... la première chose que révèle ces envolées lyriques de travailler plus, c'est ce climat de suspicion à l'adresse des gens qui ont télétravaillé notamment, mais pas que. Et malheureusement, je n'y vois pas une très grande solution. Et il faudra qu'on reprenne en détail, parce que Agnès Verdier-Molinier a fait un certain nombre de déclarations en Midi Libre, c'est vrai, mais en écho aussi à des propositions relayées par l'Institut Montaigne. Et moi, j'aimerais les reprendre parce qu'encore une fois, elles sont passionnantes, à la fois consternantes et affligeantes.
On va en parler. Tiens, Sébastien Lay, vous êtes entrepreneur et économiste. Quand on ferme les usines, dire qu'il faut travailler plus, est-ce que pour vous, ça a un sens en tant qu'entrepreneur et en tant qu'économiste?
Non, pour moi, ça n'a pas de sens et encore moins de sens dans le contexte actuel. D'abord, comme l'a dit Jérôme, je crois qu'il est fascinant de rappeler que de manière récurrente, à chaque crise, on nous ressort cette question du temps de travail avec toujours des positions très idéologiques, finalement, le patronat. Je n'oserais même pas être à la droite, parce que c'est la droite qui est à l'origine, finalement, avec la loi Robien, par exemple, des réflexions sur la, la semaine de 4 jours, mais une partie de la droite seulement et du patronat qui ont, on va dire, travaillé plus. De l'autre côté, à gauche, c'est assez marqué. Vous savez, c'est les idéologies de Jeremy Rifkin ou d'autres. On a un gâteau, on va essayer de mieux se le partager en travaillant moins pour lutter contre le chômage. Bref, on nous ressort les mêmes sornettes à chaque crise. Et regardons en face la crise qu'on vient de vivre. Il y a peut-être un problème avec la production ou l'économie de l'offre en France de manière générale, mais sur ce que nous venons de vivre, on ne peut pas simplement se dire « retroussons-nous les manches, travaillons plus parce qu'il y a eu des destructions, parce qu'il y a des choses à reconstruire ». Non, il n'y a pas de problème du côté de l'offre. C'est même l'inverse, il y a des stocks de partout. Il y a des stocks qui sont pléthoriques.
Il y a 400 000 voitures neuves.
Exactement, il y a des gens qui ont de l'épargne. Le problème, c'est qu'il n'y a plus de demande parce que vous avez des gens qui ont peur, qui ne vont pas revenir à la vie normale d'ici 3, 4, 6 mois. Et donc, sur les 6 prochains mois, c'est véritablement un problème de demande. Alors après, que sur le plus long terme, on se pose des questions, ça, je peux me les poser moi aussi en tant qu'entrepreneur, sur la structure du temps de travail, etc., c'est un autre sujet. Mais là, essayer d'utiliser la crise du Covid, ce sont simplement des agents idéologiques qui se précipitent, vous avez cité quelques noms, pour, vous savez, tout le monde y va de son « voilà quel doit être le monde d'après, voilà ce que nous devrions faire », simplement pour revenir à leur proposition d'il y a 6 mois. Mais tout ça n'a rien à voir avec la crise du Covid, tout ça n'a rien à voir avec les difficultés des Français. On est simplement en train d'instrumentaliser les Français pour un pur débat idéologique, qui honnêtement, moi en tant qu'entrepreneur, est un micro-sujet.
Philippe, croyez-vous aussi, vous êtes entrepreneur, président des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, ça a un sens quand on dit on va fermer 4 usines mais il faut travailler plus?
Non, je pense que je partage ce que vient d'évoquer Sébastien. Je pense qu'il faut prendre un petit peu de recul sur la situation. Je pense que l'enjeu ne sera pas une société du toujours plus. Cette société du toujours plus devient très anxiogène et amène à des limites. D'accord, on arrive à un niveau d'exclusion dans notre pays qui devient insupportable. Donc, il faudra travailler mieux demain. Je pense qu'il faudra travailler mieux. Par contre, nous touchons certainement les limites d'un pays jacobin centralisé où tout veut être décidé au niveau national. Moi, pour vivre l'entreprise au niveau local, pour discuter avec des grands groupes au niveau national, on ne peut pas imaginer les mêmes règles pour tous les acteurs. D'ailleurs, les secteurs d'activité n'ont pas du tout été touchés de la même manière par le Covid et par les éléments. Donc, moi, je crois beaucoup au fait que notre pays devra se décentraliser. Il devra devenir beaucoup plus subsidiaire parce qu'on ne pourra pas décider à Paris, au ministère du Travail, ce qui sera bon dans tel secteur. Et je pense qu'il faut enfin oser faire confiance aux salariés et aux entrepreneurs par rapport à ça. De la même manière qu'il faut faire confiance aux gens qui ont fait du télétravail. Nous, on a vécu dans la phase de confinement les gens qui ont fait du télétravail dans l'entreprise. Ça s'est très, très bien passé. Il y a quelques cas où des personnes avec des jeunes enfants étaient en surcharge. Ces personnes ont réintégré l'entreprise plus vite. Et ça, c'est du pragmatisme d'entrepreneur. Et donc, c'est dans ce pragmatisme-là qu'il faut travailler. Et donc, nous, on ne croit pas au toujours plus, on croit au mieux pour demain, dans une société qui va équilibrer les choses.
Joseph Touvenel de la CFTC, je pense que vous êtes aussi un peu sur cette ligne. Parler de travailler plus quand on ferme 4 usines, ça n'a pas de sens.
Et nous sommes en fait en plein slogan. Qu'est-ce que ça veut dire travailler plus?
C'est une posture, c'est ce que dit un peu tout le monde.
Mais oui, enfin, y a des gens qui sont chômeurs qui voudraient travailler. Il y a des personnes qui sont à temps partiel imposées. Je pense à une téléopératrice qui, elle, a des grandes difficultés parce qu'elle a beau toucher le chômage partiel, qui est une bonne chose, mais comme elle vivait en plus avec les primes de production, elle est à 900 euros par mois. Je pense à ces salariés de McDonald's qui sont à temps partiel de 28 heures imposées. Eux, ils aimeraient travailler plus. Et nous sommes en pleine idéologie, ça a été dit. S'il n'y a pas d'acheteurs, ça ne veut rien dire de produire plus. Alors on pourrait aussi être dans le slogan en disant « travailler mieux », ce qui ne voudrait rien dire. Ce que j'ai noté, on est visiblement à peu près tous d'accord sur le fait que là, on est dans le slogan et pas dans la réalité. Il y a des Français qui travaillent beaucoup, il y en a qui voudraient travailler plus, et puis comme dans toute société, il y a certainement des Français qui ne travaillent pas assez. Mais qui ne travaillent pas assez parce qu'il existe dans les sociétés des gens qui sont des travailleurs et d'autres des fainéants, ça c'est une réalité qu'on ne va pas se cacher. Mais quand on dit « notre pays », ça veut dire qu'à un moment donné, si on veut demander aux uns et aux autres de faire des efforts dans les situations difficiles, c'est qu'on a un projet commun, c'est qu'on bâtit un avenir commun. Et je suis quand même frappé que ceux qui nous tiennent le discours « il faut travailler plus » comme si on ne travaillait pas suffisamment, comme si les Français étaient globalement des fainéants, ce qui est faux, sont les mêmes qui, dans le même temps,
nous nie complètement le projet commun, qui est un projet de cette vie et cette aventure commune d'un pays, qui sont des ultralibéraux, alors on peut leur faire une réponse d'ultralibéral en tant que salarié, et c'est pas celle que je voudrais, mais enfin, en tant que salarié, dans ces cas-là, je choisis le meilleur rendement, c'est-à-dire le plus faible investissement pour la plus forte rentabilité. Eh bien, ce projet-là, c'est un salarié qui va en faire le moins possible. Un salarié ultralibéral, c'est celui qui en fait le moins pour gagner le plus. Eh bien, cette société, elle est mortelle pour les entreprises, elle est mortelle pour les personnes, elle est mortelle pour le pays. C'est exactement la société que nous vend ceux qui en permanence nous disent « il faut travailler plus », sans savoir qu'il y a des gens qui sont aujourd'hui, en travaillant beaucoup, épuisés.
Vous êtes bien sur Sud Radio, 19h15. Va-t-il falloir travailler plus ? Vous êtes 74% à dire non sur Twitter, 81% sur Facebook. Vous voulez réagir ? On vous a proposé là de dire, on vous a peut-être dit, bah écoutez, maintenant il va falloir travailler plus. Vous avez entendu les 35 heures payées, les 37 heures pardon, payées 35. Vous vivez ça dans votre entreprise. Vous connaissez le numéro, le 0826 300 300. On se retrouve dans quelques instants.
Les vraies voix Sud Radio jusqu'à 20h. Et le mardi, c'est l'emploi.
Faut-il travailler plus pour sortir de la crise ? Bonne question, c'est celle qu'on se pose ce soir sur Sud Radio en compagnie de Jérôme Laverny, directeur du réseau national des missions emploi, Sébastien Lay, entrepreneur et économiste à l'Institut Thomas More, Philippe Royer, président des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, et Joseph Touvenel, vice-président de la CFTC. Alors messieurs, si je regarde les statistiques de l'OCDE, en nombre d'heures travaillées par an en 2018, on a travaillé 1362,6 heures en Allemagne, 1520 heures en France, 1701 en Espagne, 1722,6 en Italie et 1956 heures en Grèce. Jérôme Laverny, si on suit la rhétorique de ceux qui veulent augmenter le temps de travail, il faudrait travailler moins comme les Allemands, puisque c'est le pays de tous ces pays où ça va le mieux.
Et puis, alors tout d'abord, une petite synthèse de ce qui a été dit avant la pause et de la vertu d'une émission comme les vraies voix de l'emploi en l'espèce, qui permet de disposer du temps, de poser les choses et de ne pas de lancer des envolées lyriques comme ça à l'emporte-pièce sur travailler plus, travailler moins, c'est le sujet. Et pour revenir sur certaines choses qui ont été dites, Sébastien a parlé de micro-sujets, il a mille fois raison. Ce qui est embêtant dans cette affaire, c'est qu'on perd beaucoup de temps et d'énergie à ces joutes verbales sur des choses qui n'ont ni queue ni tête et qui ne vont pas constituer des solutions immanquablement. C'est tellement vrai que le patron du MEDEF, lorsqu'il s'est hasardé à cette proposition il y a à peu près un mois, l'a rapidement écarté au bout de quelques jours. Toujours Sébastien a parlé de postures idéologiques, et c'est vrai que c'est ce qui est regrettable. On est vraiment bien éloigné de l'ancrage sur le terrain beaucoup plus empirique qui permettrait notamment, parce que si on relit en synthèse aussi les propositions de l'Institut Montaigne, dans les 9 propositions qui sont faites et ayant cet argument de travailler plus, à aucun moment il n'est question du chômage et des demandeurs d'emploi. C'est dingue. C'est-à-dire que s'il était question de travailler plus, eh bien, il s'agirait peut-être, et ce serait bien moins coûteux pour la collectivité, eh bien, de faire en sorte que ces demandeurs d'emploi, et n'oublions pas qu'ils sont nombreux encore en France, eh bien, puissent disposer des offres d'emploi, en tout cas de ce travail supplémentaire, si tant est qu'il existe. Voilà. Et puis, bien sûr, mille fois d'accord avec M. Touvenel, qui disait aussi combien il faut sortir de ce schéma jacobin où on va tout d'un coup décider comme ça, de façon généralisée, d'une...
C'est Philippe Royer qui le disait. Rendons à Philippe Royer ce qui est à Philippe Royer.
Philippe Royer, oui, tout à fait. C'est moi qui me trompe. Qui disait combien il est hasardeux de décider d'en haut, de façon donc jacobine, d'une mesure qui va s'étaler pour tout le monde. Il s'agit de revoir suivant les secteurs, suivant les entreprises, et les partenaires sociaux et sont suffisamment aptes, aguerris à ce genre d'échange pour pouvoir avoir la capacité, et dont c'est d'ailleurs le rôle, de décider en l'espèce si dans tel secteur, si dans telle entreprise, il y a lieu de travailler plus ou moins et de l'adapter. Du reste, les nouvelles dispositions de la loi depuis janvier le permettent hautement avec les heures supplémentaires s'il était question de travailler plus. Mais on va prendre des exemples empiriques pour le coup.
Justement, Sébastien Lay, je reviens sur la question de départ. J'ai donné des temps de travail réels dans de l'OCDE, et l'OCDE, c'est des gens quand même plutôt sérieux. 1956 heures par an en Grèce, 1362,6 en Allemagne. En France, 1520, donc nettement plus que l'Allemagne. Pourtant, c'est en Allemagne que ça va beaucoup mieux qu'en Grèce. Est-ce qu'il n'y a pas un truc un peu bizarre ?
Non, c'est très simple. C'est parce qu'on va faire de l'économie, mais on va la simplifier, hein. En réalité, le temps de travail ne joue pas sur la croissance. Si vous discutez avec des économistes pendant des heures, et je simplifie ce qu'ils vous diraient, ils vous diraient que la croissance, ça dépend de trois facteurs. Le premier, c'est le facteur travail, mais ce n'est pas simplement la quantité, c'est plutôt ce qu'on appelle la productivité. Et puis aussi
et la Français, et je vous coupe, les Français sont très productifs.
Exactement, c'est pour ça que finalement, on arrive à compenser avec la productivité. Il y a un second secteur qui fait parfois défaut en France, qui est le capital, et il y en a un troisième qui est encore plus compliqué, qui est celui de l'innovation. Donc, vous voyez, la croissance d'un pays, ça dépend très peu de la question du temps de travail. Moi, je suis tout à fait OK avec ce travail qui a été fait de l'Institut Montaigne parce que je connais la personne qui a rédigé la note. C'est un ami, c'est Bertrand Martineau, et j'ai les mêmes discussions avec lui depuis des années où je lui dis, certes, il y a peut-être des choses à faire en France. Il faut noter, effectivement, c'est peut-être le seul domaine où le gouvernement Macron a eu quelques avancées. Effectivement, les accords de performance collective, on peut en parler, les accords APC, vous permettent aujourd'hui, finalement, si vous avez des difficultés passagères, bien de raboter un peu les 35 heures ou de changer deux, trois choses pour ne pas licencier immédiatement. Donc, cette petite flexibilité, on l'a maintenant en France. Mais ça ne change rien du tout à la situation. Et puis, on va revenir quand même à l'environnement dans lequel on se trouve. C'est ce grand choc, la crise du Covid. Bon, pour faire simple, l'économie, ce n'est pas un stock qu'on récupère. C'est-à-dire que pendant trois mois, pendant que vous avez des restaurants qui n'ont pas fonctionné, les repas que vous n'avez pas consommés au restaurant, vous n'allez pas les rattraper.
Vous n'allez pas aller manger quatre fois par jour pour rattraper le chiffre d'affaires, c'est évident. Ou boire trois cafés au lieu d'un.
Oui. Voilà, parce que votre restaurateur a décidé de plus travailler ou parce que vous avez sauté comme un cabri toute la journée sur votre chaise en disant « je consomme pour redresser le pays ». J'entendais un éditorialiste l'autre jour qui disait « Français, rendez service à votre pays et consommez maintenant, ne gardez pas votre épargne ». Non, mais l'individu, le citoyen moyen ne fonctionne pas comme cela. Donc, encore une fois, c'est une question sur les six prochains mois de demande, c'est une question de mentalité des gens aussi, mais ce n'est pas simplement avec des slogans, avec des postures que les entrepreneurs
qu'on vont va y arriver.
Il y a pas
justement,
de demande,
il y a pas de Philippe Royer, quand vous entendez les temps de travail de l'OCDE, ça laisse quand même assez rêveur, non ?
Oui, mais ça rejoint ce que j'évoquais par rapport à l'Allemagne. L'Allemagne, pays très décentralisé, avec un fonctionnement régional, et pays dans lequel il y a une culture du dialogue social très très forte entre les employeurs et les salariés. Et je crois que c'est ce que évoquait Joseph Touvenel. Je pensais qu'il allait aborder la question de l'économie du bien commun. C'est l'enjeu de demain, c'est de co-construire entre entrepreneurs et salariés les bonnes réponses qui vont intégrer l'innovation qu'évoquait Sébastien tout de suite, qui vont intégrer le fait que des gens prennent du risque d'apporter du capital et que les salariés vont amener leur travail et leur intelligence dans ce dispositif. Et c'est en réconciliant cet esprit d'entreprendre, la France doit garder cet esprit d'entreprendre. Il faut développer l'innovation. Plus que jamais, il faut penser demain, il faut penser l'économie verte et un certain nombre de choses, de virages que notre pays doit prendre. Mais en même temps, ça peut pas se faire si on n'intègre pas les exclus et si on ne prend pas en compte les questions d'environnement. C'est cette synthèse-là qui va nous permettre de sortir positivement. Après, quant à la question du travail, déjà, les gens ne travaillent pas du tout la même durée. Il y a beaucoup de temps de travail annualisé dans les entreprises déjà aujourd'hui. Et puis, en fonction des heures supplémentaires, ça a été dit juste avant, il y a des pics d'activité, il y a des périodes de sous-activité. C'est la vraie vie en entreprise.
Joseph Touvenel, vous, le syndicaliste, vous allez dire « vive le modèle allemand », 1362,6 par an.
Oui, mais on voit bien, ça a été dit, la durée du travail, c'est un indicateur. Prix seul, il n'a aucun sens. Il faut voir évidemment la productivité. C'est pour ça que le pays d'Europe où le temps de travail sur l'année est le plus long, c'est la Grèce. Je ne souhaite à personne d'avoir l'économie grecque. C'est aussi simple
c'est
que
clair.
Ça. La productivité est un des éléments, mais je vais revenir à ce qui a été dit et précisé par Philippe Royer. Une société, y compris en entreprise, c'est une famille humaine. Et si on ne recrée pas le lien social, comme en Allemagne, et en Allemagne, il est institutionnel, une entreprise allemande de plus de 3000 salariés, la moitié du conseil d'administration est formée de syndicalistes. Pas forcément d'ailleurs des salariés de l'entreprise, des gens désignés par l'organisation syndicale. Dans les entreprises, à partir de 300, c'est un tiers du conseil d'administration. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on reconnaît qu'entre les dirigeants, les actionnaires et les salariés, on doit réfléchir en commun sur l'avenir de l'entreprise. Eh bien, ça veut dire qu'on a une dimension de commun, de « je bâtis l'avenir ensemble ». Alors qu'en France, chez nous, si je dis « demain, partageons ce pouvoir avec les actionnaires qui ont leur place, mais aussi avec les salariés qui ont toute leur place », on me dit « horreur, malheur ». Eh bien non, non. Allons-y ensemble, mais prenons les risques ensemble. Et ce n'est pas « je laisse prendre les risques aux uns », je m'oppose aux autres, c'est ça la vie française. C'est cette opposition quasi systématique et dans le même temps une opposition idéologique, ça a été dit. On se balance à la figure, par exemple, les 35 heures. Qui peut me donner le texte qui interdit à un chef d'entreprise aujourd'hui en France de faire travailler ses salariés au-delà de 35 heures?
Beaucoup de réactions.
Est-ce que quelqu'un peut me donner ce texte? Sûrement pas, il n'existe pas. On n'a pas de problème de durée du travail en France. On a éventuellement un problème de coût du travail à partir de 35 heures. Il est vrai que si je paye une heure supplémentaire, 25% de plus, je peux complètement obérer ma rentabilité. Alors traitons du coût du travail, mais pas de ce problème de durée qui n'existe pas. Je peux travailler beaucoup plus et il y a la majorité des Français, en fait, travaillent plus que 35 heures.
Vous êtes bien sur Sud Radio, 19h27, et pour le moment vous êtes 80 sur Facebook et 75%, 80% bien sûr, et 75% sur Twitter à de dire non, vous n'êtes pas prêt à travailler plus, il ne faut pas travailler plus pour sortir de la crise. On a beaucoup de réactions, je vous ferai réagir sur celle-ci dans quelques instants. Vous voulez réagir vous aussi? Vous réagissez beaucoup sur Twitter, c'est le 0826 300 300. On se retrouve dans quelques instants.
Les vraies voix Sud Radio jusqu'à 20h. Et le mardi, c'est l'emploi.
Pour sortir de la crise, va-t-il falloir travailler plus? On en débat avec Jérôme Laverny, directeur du réseau national des missions emploi. Sébastien Lay, entrepreneur et économiste à l'Institut Thomas More. Philippe Royer, président des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Et Joseph Touvenel, vice-président de la CFTC. On a beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux. Je vais vous faire réagir avant de continuer le débat. On a Christophe qui nous dit « C'est peut-être égoïste, mais je n'ai aucune envie de bosser plus alors que je n'ai pas arrêté pendant le confinement. J'estime que beaucoup d'entreprises ne se sont pas organisées pour passer cette crise. » Qu'est-ce que vous pensez de la remarque de Christophe, Jérôme Laverny?
Ouais, c'est tout à fait juste. Cette histoire de travailler plus est un petit peu indécente, comme l'a dit un responsable syndical aussi, au regard et au vu du nombre de personnes qui, en télétravail, ont parfois fourni une activité encore plus intense, je le disais tout à l'heure, qu'en présentiel. Oui, c'est complètement juste. On a parlé aussi du forfait jour qui aujourd'hui laisse un certain nombre de salariés travailler bien au-delà des 35 heures évoquées également. Et puis, moi, il y a autre chose sur lequel je voulais revenir. Et je l'ai dit plusieurs fois à cette antenne, il faut distinguer les entreprises qui, pendant la crise, ont dû interrompre leur activité de celles qui ont suspendu leur activité, qu'ils vont pouvoir reprendre. Où là, pour le coup, on pourrait imaginer effectivement qu'il y ait nécessité, reprise aidant, de redoubler l'activité. Pour celles qui ont perdu, pour lesquelles ça a été une réelle perte sèche, et pour reprendre l'exemple pris par le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, exemple qui nous est complètement indifférent, Philippe, à vous et à moi, celui des coiffeurs. Malheureusement, ça n'est pas en travaillant plus qu'il va y avoir un redoublement d'activité. Avec la meilleure volonté du monde, ça ne va pas se jouer comme ça. Et ça n'est surtout pas avec des solutions à l'emporte-pièce comme enlever le jeudi de l'Ascension. Vous voyez,
après lundi de Pentecôte, oui.
C'est un monopoly, cette affaire.
Justement, Sébastien Lay, je voudrais vous faire réagir. Après, je vous fais réagir Philippe Royer et Joseph Touvenel à un autre commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de ce commentaire, Sébastien Lay? C'est peut-être égoïste que je n'ai aucune envie de bosser plus alors que je n'ai pas arrêté pendant le confinement. J'estime que beaucoup d'entreprises ne se sont pas organisées pour passer cette crise.
Alors, premier point, le télétravail, c'est du vrai travail. Alors certes, il n'y a pas le flicage qu'on retrouve sur le lieu de travail, mais ça veut dire aussi qu'on est un peu tout le temps en train de travailler. Je pense que vous avez tous fait cette expérience-là. Vous êtes à la maison, peu importe, parfois certains se sont occupés de leurs enfants en même temps, certes, mais au niveau du temps de travail, je doute que les Français en télétravail aient fait les 35 heures, c'est souvent beaucoup plus. Donc si on l'accepte et si on considère que c'est une nouvelle modalité de travail, on ne peut pas venir dire aux Français « ça n'est pas du vrai travail parce que c'était du télétravail ». Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on sous-estime aussi la difficulté psychologique de la période. Si vous prenez par exemple beaucoup de chefs d'entreprise ou d'entrepreneurs, il y en a certains, certes, ils ont dû plus ou moins interrompre leur activité, mais il a fallu gérer les dommages collatéraux de la crise. Et il y en a certains, honnêtement, qui sont lessivés psychologiquement après ces 2 mois de crise du Covid. Donc, je ne suis pas certain que tout le monde soit capable, dans une mentalité comme ça positive, en se disant « je vais aller à la conquête de nouveaux marchés qui n'existent pas ». Tout le monde est attentif et tout le monde sera attentif d'abord jusqu'à la fin de la crise sanitaire. Parce qu'encore une fois, on parle de réouverture de restaurants, d'hôtels, de lieux événementiels, mais quand on voit les conditions sanitaires, on voit très bien que le niveau d'activité ne sera pas celui qu'on a connu.
Ah bah c'est ce que disent les restaurateurs. Si je dois ouvrir une table sur deux, je réouvre même pas parce que je vais perdre de l'argent.
Dans le meilleur des cas, on est à 40-50% d'activité dans ces secteurs-là, pas plus. Donc, de toute manière, jusqu'à la rentrée, jusqu'en septembre, on est en phase de post-confinement ou de début de confinement où l'activité n'est pas normale et donc malheureusement, l'heure n'est pas à une mentalité conquérante pour aller obtenir plus de chiffre d'affaires ou plus de marché. Voilà.
Philippe Royer, un autre commentaire, c'est Jackie qui dit « Travailler plus pour sauver son patron artisan est une bonne chose, mais travailler plus pour conforter une multinationale qui aime avoir ses fonds à l'étranger, non. Est-ce que ça, vous qui êtes patron des entrepreneurs chrétiens, c'est pas une chose forte? Les gens disent « Dans une TPE-PME, j'ai une relation avec mon patron, je pense qu'il me jettera pas comme un malpropre. » Alors que quand on voit dans les multinationales la manière de fermer les usines pour aller les mettre ailleurs, c'est quand même une autre paire de manches.
Oui, je pense que effectivement derrière le terme entreprise, il y a des différences très très majeures. Une entreprise où le patron connaît tous ses salariés et une entreprise où les relations se passent différemment. C'est pour ça que moi je pilote un groupe où il y a 1800 salariés, mais on travaille en îlot au niveau régional pour que il y ait des divisions et qu'on maintienne une identité régionale avec des liens avec les personnes. Quand à un moment vous ne connaissez plus vos salariés, quand vous avez plus de rapport et que voilà et que les gens sont devenus des numéros, on ne peut pas y aller, on ne peut pas réussir. Ces entreprises qui auraient ces attitudes un petit peu distantes vis-à-vis des salariés, qui traiteraient les salariés comme des numéros, s'exposent à des graves difficultés parce que les jeunes, la génération qui arrive, a un raisonnement par rapport au sens du travail qui est beaucoup plus fort que ma génération. Et bonne nouvelle, pour avoir les meilleurs jeunes demain, il va falloir être attractif au niveau du sens, au niveau de l'intérêt porté au travail, au niveau des formes de travail. C'est des jeunes qui sont très à l'aise avec le télétravail. Donc, il nous faudra demain aller vers ce genre de choses. Et d'ailleurs, on voit un certain nombre de salariés quitter des grands groupes pour aller vers des entreprises de plus petite taille, parfois en acceptant des salaires moins importants parce que ayant le sentiment de donner plus de sens à leur action. Et j'ai vu qu'il y a 5 jours, Emmanuel Faber a dit qu'il allait passer Danone en entreprise à mission pour redonner une raison d'être à Danone et de dire en quoi Danone allait concourir au bien commun. Donc on voit bien que, y compris les grands groupes, se posent un certain nombre de questions.
Joseph Touvenel, quand vous entendez Jackie qui nous dit « Moi, pour sauver mon patron entre petits artisans, pas de problème, pour les grosses multinationales, non. »
Eh ben, je le comprends tout à fait. Il remet au centre du jeu quelque chose qui est le lien humain. D'abord, il faut retrouver le sens du travail. Le travail, c'est une valeur pour le chrétien que je suis, travailler, c'est participer à une œuvre. Est-ce que chacun, dans son emploi, a l'impression de participer à une œuvre, quelle que soit sa tâche? Vous savez, moi, j'ai commencé, j'étais manœuvre chez un horticulteur, et j'ai été pendant plus de 2 ans homme de ménage. Eh bien, quand je faisais mon travail, je participais à une œuvre, je savais à quoi ça correspondait. Il faut retrouver ce sens du travail, redonner ce sens. Et ce lien humain qu'on trouve dans la petite entreprise, qu'on peut trouver aussi dans la grande entreprise quand elle sait s'organiser, mais qu'on trouve beaucoup moins quand même dans les multinationales où ils sont là pour faire du fric, du bénéfice, point barre, on le voit. Et d'ailleurs, je note que les personnes qui nous disent « il faut travailler plus », j'ai entendu Eric Woerth, notre ancien ministre du budget, nous dire qu'il fallait tout ouvrir le dimanche. Et quand je regarde sa carrière en entreprise, c'était chez Andersen où il s'occupait de l'optimisation fiscale. C'est lui qui vient aujourd'hui nous dire de travailler le dimanche à des braves gens qui aimeraient bien être le dimanche en famille. Ces gens-là, il faut qu'ils sortent de leur planète et qu'ils viennent au contact de la réalité, c'est-à-dire le lien humain. Et puis dans le travail, il y a ce lien humain, ce sens du travail, mais il y a aussi, faut-il travailler au niveau international pour dénoncer les accords de l'OMC qui aujourd'hui ne protègent pas les salariés. On ne peut pas être dans une compétition internationale avec des règles du jeu totalement faussées en matière sociale, en matière environnementale et en matière fiscale. On ne pourra pas s'en tirer. Il est inacceptable de faire travailler des quasi-esclaves en Afrique, en Chine, en Asie, en Amérique latine. Donc ça, il faut revoir les accords internationaux pour mettre dans les accords internationaux que le commerce, c'est une bonne chose au niveau mondial, c'est pas mauvais, mais ça devient mauvais quand on n'applique pas des règles sociales minimum qui sont le respect de la dignité de chaque travailleur, où qu'il soit. Et ça permettra une compétition plus juste, et ça nous permettra, nous aussi, de pouvoir produire, et ça éradiquera la pauvreté à l'autre bout du monde. Et enfin, dernier point peut-être, qui s'adresse directement aux autorités françaises, mais dans la compétition internationale, nos entreprises, les salariés, sont dans une instabilité juridique permanente. On n'arrête pas de nous changer les textes, on n'arrête pas de nous en rajouter, de nous faire des décrets, des circulaires, des machins, des trucs. Mais c'est une perte de temps, d'énergie, et c'est un coût pour nos entreprises, mais qui est colossal, et que n'ont pas nos principaux concurrents.
Justement, Jérôme Laverny, vous qui êtes directeur du réseau national des missions emploi, est-ce que finalement, quand on voit la robotisation, il y a 40 ans, on parlait de Renault il y a quelques minutes, il y avait des soudeurs, maintenant ça fait 40 ans ou 30 ans, 35 ans que les soudures sont toutes faites par des robots, avec la numérisation, on change les lignes de métro, maintenant c'est des métros qui se conduisent tout seuls, est-ce que la baisse du temps de travail, ça ne va pas? Je vais citer Marx, ça ne va pas faire plaisir à nos amis Philippe Royer et Joseph Touvenel, qui sont syndicalistes chrétiens, l'un dans le patronat, l'autre dans le syndicat, que ça ne va pas dans le sens de l'histoire.
Non, ce n'est pas forcément une question d'adaptation. Nicolas Bouzou y a consacré un ouvrage. Il s'agit de l'innovation va aussi créer de l'emploi par ricochet et sous condition d'accompagner dans la formation les futurs salariés à tous les âges de la vie. Par contre, vraiment, chose très très importante qui vient d'être dite, ces mêmes personnes qui ont fait ces déclarations à l'emporte-pièce sont les mêmes qui, parfois, portent au nu le premier employeur de France, c'est-à-dire les TPE-PME. C'est elles qui vont être les principales victimes de ce qui s'est passé. Et plutôt, comme l'a proposé M. Woerth, de relancer les ouvertures du dimanche, etc., mais il faut le faire plus intelligemment, de façon un petit peu plus subtile, avec un peu plus d'ancrage dans la réalité. Quelles ont été les principales victimes des petits commerces? Qui a profité, en réalité, du point de vue de la consommation de la période de confinement, les grandes surfaces? Eh bien, faisons en sorte que ces dernières qui fermaient le dimanche continuent à fermer le dimanche, en laissant lieu et place aux petits commerçants. Bâtissons une stratégie.
Je vous coupe, vous allez faire plaisir à Joseph Touvenel, c'est une proposition de la CFTC il y a quelques semaines, vous voyez.
Exactement, mais c'est essentiel. Notre boulanger, notre boucher, nos marchés traditionnels, on les défend, ce sont des emplois et ce sont des gens qui travaillent. C'est l'équilibre de notre société. Fermons les grandes surfaces le dimanche. D'abord, elles tuent des emplois, elles ont leur utilité, mais au rayon chaussures de votre grande surface, zéro salarié. Un chausseur de centre-ville, c'est un, deux ou trois emplois. C'est ce tissu-là qu'il faut défendre. C'est le tissu qui est dans nos bourgs, dans nos villages, dans nos villes, dans nos centres-villes. Et les grandes surfaces ont leur utilité, mais ne les laissons pas prendre un espace monopolistique sur la consommation et la distribution.
Sébastien Lay, là, je vous demandais de chausser votre... On va pas parler de chaussures, mais de chausser votre casquette d'économiste. Pas marxiste, comme on a cité Marx il y a quelques secondes.
Pas
franchement, pour bien vous connaître. Non. Est-ce que la baisse du temps de travail, ça va quand même pas dans le sens de l'histoire?
Non, je le crois pas. Encore une fois, on peut revenir c'est aux vieilles lunes. Vous savez, dans les années 90, il y avait une forte influence sur la gauche française, par exemple, de Jeremy Rifkin. Avec, encore une fois, ces gens qui pensent que le travail, c'est une sorte de gâteau qu'on peut se partager comme ça, en diminuant le temps de travail pour lutter contre le chômage et donner plus d'emplois aux gens. Ça ne fonctionne pas ainsi. Donc, la question du temps de travail, oui, bien sûr que vous avez une évolution séculaire. Je disais précédemment, vous savez, j'essayais de faire la comparaison avec la crise du Covid. Je vous disais en introduction, il n'y a pas eu de destruction sur le sol français. La dernière fois qu'il y a eu des véritables destructions et qu'il a fallu se retrousser les manches pour reconstruire, c'était en 45. Et à l'époque, on est passé, il y a eu des accords avec les syndicats pour passer de 45 heures à 48 heures par semaine. Donc, vous voyez, depuis, on a
perdu. Il y avait des villes intégralement rayées de la carte aussi, hein.
Exactement, exactement. Nous ne sommes pas du tout dans cette situation. C'était pour ça que je me permettais de dire avec le Covid, c'est l'inverse. Au contraire, on a plutôt des stocks et on ne peut pas simplement se retrousser les manches en disant on va reconstruire parce qu'il n'y a rien à reconstruire. Ce n'est pas une crise de l'offre en tant que telle sur le court terme, c'est une crise de la demande. Alors, votre question, elle portait sur la baisse du temps de travail. Moi, je crois aussi, je l'ai dit en introduction, on l'a tous dit, que toutes ces postures sur le temps de travail, ce sont des postures idéologiques. On le voit bien. Donc, la baisse du temps de travail, c'est une posture idéologique de notre camp qui pense qu'on va arriver, comme le disait Jeremy Rifkin, à la fin du travail, que tout va disparaître, que l'automatisation, la robotisation va tout emporter, que nécessairement on doit moins travailler et que peut-être on doit même s'arrêter de travailler, que l'État va nous payer un revenu universel pour rester à la maison. Moi, je ne crois pas à cette vision comme ça malthusienne de la décroissance. Ça ne correspond à rien quand on regarde l'histoire. Je sais très bien que ces gens ont tort. Malheureusement, ce sont des lubies idéologiques qu'il faut combattre. Encore plus dans la période actuelle, parce qu'honnêtement, la priorité, ce n'est pas la décroissance. Dans quelques mois, quand on va voir les ravages du chômage, des faillites, etc., le sujet principal, vous allez voir la prochaine présidentielle en 2022, ça va être le pouvoir d'achat, les emplois et comment, en particulier pour les gens les plus modestes, j'arrive à survivre en France et comment on arrive. On parlait des problèmes au sein des entreprises, mais tout ça, ça existait avant le Covid. Et le principal sujet, la principale difficulté, c'est que pour bâtir cette économie du bien commun, moi j'appelle ça l'économie de la réciprocité, c'est un terme qui appartient à un économiste qui s'appelle Bruno Roche, qui travaille à la Fondation Mars, eh bien pour avoir une économie de la réciprocité, encore faut-il qu'on ait un projet commun tous ensemble, en tant que Français. Ce n'est pas uniquement un problème de l'entreprise, c'est nous en tant que concitoyens français, quel est notre projet commun ? Quand vous écoutez les décideurs publics, qu'ils soient de gauche, de droite, d'En Marche, ils ne cessent de nous opposer les uns aux autres. N'oublions pas ce qui s'est passé avec la crise des Gilets jaunes. Ce n'est pas parce que vous avez la crise du coronavirus que tout ça est balayé. Bien au contraire, et bien évidemment, nous sommes dans une crise particulière. On parle de réinventer le monde d'après, mais très rapidement, les problèmes du monde d'avant vont nous rattraper. Ils sont simplement encore plus importants. Si vous voulez, la crise du virus, c'est un accélérateur de l'histoire. Tout va arriver et beaucoup plus rapidement, y compris les changements dans l'entreprise.
Vous êtes bien sur Sud Radio. Philippe Royer voulait la parole, mais on doit faire une courte pause. On la lui donnera dès le retour. Il est 19h43 et pour le moment, ça a pas mal bougé. Vous êtes 81% à dire non sur Facebook et 69% sur Twitter. On continue ce débat, oui. Pour sortir de la crise, il va falloir travailler plus. Restez bien avec nous sur Sud Radio.
Les vraies voix Sud Radio jusqu'à 20h. Et le mardi, c'est l'emploi.
Retour des vraies voies de l'emploi en compagnie de Jérôme Laverny, directeur du réseau national des missions emploi, Sébastien Lay, entrepreneur et économiste à l'Institut Thomas More, Joseph Touvenel, vice-président de la CFTC, et Philippe Royer, qui voulait réagir, président des entrepreneurs et dirigeants chrétiens.
Ouais, je voulais réagir sur les propos de Sébastien. Je partage complètement le fait que notre pays manque d'une vision. Ça me paraît vraiment fondamental. Il faut redonner un sens commun à notre pays et il faut redonner ce sens commun dans lequel on va réconcilier cet esprit d'entreprendre, cette innovation, cette inclusion des plus fragiles et ce respect de la planète. Mais il faut aussi resituer la crise dans une succession de crises. On est dans une période d'une mutation d'une trentaine d'années peut-être. On a eu la crise financière où on a traité les effets mais on n'a pas traité la cause. On a la crise du réchauffement climatique. On a maintenant une crise sanitaire qui va entraîner une crise économique et peut-être une crise politique derrière. Et on va effectivement avoir un long pendant. Je suis d'accord avec Sébastien, on va avoir des chaos, des périodes difficiles. Par contre, est-ce que nous, on sera cette force émergente qui va permettre, parce qu'on croit dans demain, parce qu'on sait qu'on est capable de sortir en mieux de cette période-là, mais il ne faut pas mentir, on va avoir une période délicate, un long pendant, il n'y aura pas le monde d'avant et le monde d'après.
Justement, Philippe Royer, pour passer cette période délicate, comment travailler plus si les carnets de commandes sont vides? Et on parlait de l'automobile, il y a 400 000 véhicules neufs invendus qui dorment depuis des semaines suite au confinement. Comment est-ce qu'on relance la machine?
Mais il ne faut pas se mentir, on va avoir une période très difficile parce qu'on a été sous morphine. Le chômage partiel sert de morphine et on va être également sous morphine à travers les prêts de garantie État. Les problèmes se posent déjà dans des secteurs d'activité. Ils vont se poser dans plein d'autres secteurs d'activité qui ne vont pas pouvoir rembourser le problème du prêt de garantie État. Donc, on est devant un problème qui, pour certains secteurs, apparaît immédiatement, tel que pour les restaurateurs et Renault, mais il y a plein d'autres entreprises qui vont être devant le même problème dans un an, parce que le gros problème, ça va être un problème de trésorerie pour les entreprises. Et aujourd'hui, quand vous avez un prêt garanti État, il faudra le rembourser. Et aujourd'hui, les entreprises n'auront pas tous la capacité d'autofinancement pour faire face à ces échéances. Donc voilà, il faut qu'il y ait des choses malheureusement qui vont tomber et il faut en créer d'autres. On doit être à la période de la création.
Et Jérôme Laverny veut réagir, je crois.
Moi, je suis mille fois d'accord. Et s'il y a un enseignement et peut-être un profit, malgré les circonstances, à retirer de cette crise, c'est peut-être de changer un petit peu le logiciel avec lequel nous appréhendons les situations, tant du point de vue du présent que du futur, en essayant de construire des perspectives. Et donc, effectivement, on l'a dit un certain nombre de fois dans l'émission, et c'était la raison pour laquelle il fallait s'y arrêter. Il convient de sortir des postures idéologiques qui, de toute façon, ne valent pas pour tout le monde. Comment une personne qui va être licenciée va entendre ce discours consistant à dire « il faut travailler plus » alors qu'on précisément, elle vient de perdre son travail ou une entreprise, de devoir se séparer de salariés. Donc voilà, s'il y a peut-être un enseignement, un profit à retirer de cette mauvaise et tragique expérience, c'est peut-être celui, effectivement, de construire autre chose, une autre façon d'appréhender les choses et de se diriger vers quelque chose qui fasse converger un petit peu, si ce n'est tous les intérêts, mais en tout cas l'adhésion implicite de tout le monde. Un petit coiffeur, on le disait tout à l'heure, ne va pas être convaincu par cette nécessité, quand bien même étayé de je ne sais combien d'arguments pour dire « travailler plus, ça n'a pas de sens ».
Alors, on a beaucoup de commentaires. Je vais vous faire réagir. Tiens, Sébastien Lay, on a Toto qui nous dit « Pour moi, le travail a plus de 40 heures, donc il n'y a pas de souci, mais on nous fait payer très cher sur l'évolution de salaires qui ont été bloqués pendant plus de 7 ans. Donc non, pas de travail supplémentaire sans une rémunération supplémentaire avec un rattrapage. Sinon, une révolution aura lieu. » Vous n'avez pas peur que dans la France d'après, il y ait une révolution ?
Elle s'est déjà produite. Elle a commencé avec les Gilets jaunes. Si vous écoutiez les Gilets jaunes, moi, j'étais avec les Gilets jaunes des toutes premières semaines, par exemple. Parce qu'il y avait beaucoup d'entrepreneurs, il y avait beaucoup de petits entrepreneurs qui demandaient justement à ce que le travail paie mieux, avoir moins de charges, moins de réglementations. Et il y avait aussi ce constat, effectivement, de salaires qui sont bloqués depuis très longtemps. Donc là, on a la question du partage des fruits de la croissance et de la possibilité d'avoir une économie de la réciprocité comme cela, où tout le monde, finalement, profite de l'augmentation de valeur des entreprises et de la croissance. Force est de constater que ça ne marchait pas avant la crise. Le Covid vient un peu tout casser et réveiller les revendications des uns et des autres. Après, est-ce qu'on va avoir une révolution ou des mouvements sociaux au sens classique du terme ? C'est un peu le sens de votre question. Je n'en suis pas persuadé. Moi, j'ai peur qu'on soit un peu, qu'il y ait une partie de la France qui soit anesthésiée un peu sous le coup de ce choc-là. On voit déjà des velléités, par exemple, des Gilets jaunes de manifester. Vous avez vu les premiers sondages, les Français ne sont pas vraiment pour. Pour l'instant, les Français, ils sont en train de digérer cette crise assez grave. Et puis, très vite, on va retomber en 2021 dans des batailles politiques. Donc, moi, je pense que ces révolutions, il y a, c'est une forme de révolution politique, et je l'espère par les urnes, mais par la rue, je n'y crois pas, ça n'amène pas grand-chose. Et surtout, je ne pense pas que les Français soient dans cette situation-là. Paradoxalement, on fait souvent des mouvements sociaux en France quand ça va très bien et qu'on vient réclamer quelque chose. Aujourd'hui, la situation est quand même un peu différente, notamment s'il y en a un chômage qui remonte à 10-11% en fin d'année, début d'année 2021, la logique va être un peu différente. Vous savez, le classique, tout va péter. Non, ça va être quelque chose de différent. Ça peut prendre une forme plus politique lors des échéances électorales 2022, notamment.
Justement, Joseph Touvenel, on a un autre commentaire. Isabelle qui dit « Le sens du travail, tout est dit. Un point qui me semble majeur depuis plusieurs années, la qualité du management et des managers, une faille à combler au plus vite. C'est sûr que demander aux gens de travailler plus quand ils sont mal considérés, ce n'est pas problématique aussi ?»
Mais bien entendu, et ce qui fait la productivité, la force de beaucoup, c'est la confiance qu'on peut avoir dans les équipes. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez bien là.
Si, on vous entend très bien, fort et clair.
Et il faut rétablir cette confiance. Et la confiance, c'est sur la durée, c'est sur le long terme. On ne peut pas dire à des gens « engagez-vous, faites des efforts, travaillez dans l'entreprise, donnez-vous ». S'ils savent qu'au moindre coup de Trafalgar, on va les jeter comme un produit jetable. Ça, il faut en ressortir. C'est les hommes et les femmes à mettre en avant dans le cadre.
On vous entend en double, Joseph Touvenel. C'est là où on a un problème, on vous entend deux fois. Pour recaler ça, on va demander à Jérôme Lavernie. Le management, c'est un vrai problème.
Alors ça, c'est très intéressant. Tout à l'heure, il a été dit combien, dans le télétravail, on estimait qu'il y avait une mesure plus difficile de l'activité, mais rien ne le dit. On a même reçu le témoignage d'entreprises qui nous ont dit combien le télétravail avait permis de révéler la capacité ou non de certains managers d'organiser, non pas seulement le travail, mais la mesure du travail, la mesure de l'activité. Rien n'empêche qu'en à distance, cette mesure de l'activité se fasse de façon efficace. Et rien ne garantit en présentiel qu'elle se le fasse, que cette mesure se fasse de façon plus efficace. Donc oui, il y a peut-être aussi un management à réinventer. Et puisque ce mot de sens du travail perle la plupart des conversations et revient à foison depuis des mois et des mois, et ben voilà, encore une fois, c'est peut-être l'opportunité de le redéfinir de façon commune, collégiale, en l'enrichissant de propositions véritablement concrètes qui s'ancrent dans la réalité et dans la diversité des réalités, qu'on ne fasse pas retomber de façon pyramidale de Paris partout en France et pour toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. J'insiste aussi dernièrement, vraiment, s'il y a une victime principale d'un point de vue économique, ce sont les petites et moyennes entreprises, et c'est elles qu'il va falloir prioritairement aider pour maintenir cet emploi dont on dit qu'elles sont le premier employeur.
Joseph Kinel, on vous a retrouvé en mono, a priori, et pas en stéréo, voilà. C'est mieux. Même si théoriquement la stéréo, c'est mieux.
On arrive à la fin de l'émission, moi ce que je vois, c'est que vous avez des gens qui sont d'horizons différentes, là, qui viennent de s'exprimer, et on va dans le même sens. Visiblement, on a la même appréhension. Le tissu des TPE, le tissu des salariés, des petites entreprises, des moyennes entreprises, c'est le tissu essentiel. Alors, on a aussi besoin de multinationales, mais elles ont des avantages qu'elles savent très bien faire valoir. C'est ce tissu-là qu'il faut aider, c'est l'économie de proximité, ce sont les circuits courts, c'est l'engagement, et là je vais être l'anti-marxiste total, l'engagement, c'est l'engagement de tous, et je le redis, salariés, actionnaires, dirigeants, on a plus à gagner ensemble que faisant, comme Marx le disait, une opposition systématique. C'est ça sa grosse erreur. C'est l'opposition systématique, alors qu'ensemble on peut construire. C'est comme ça qu'après la Seconde Guerre mondiale on s'est redressé. C'est ensemble, et c'était pas facile, mais qu'on nous tienne un langage de vérité, que les autorités politiques cessent de nous baratiner, de nous mentir, de nous tromper, parce que ça amène une grande désespérance. Et sur la de grande désespérance, tout peut jaillir, même le pire.
Philippe Royer, en une minute, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, vous allez faire un congrès avec les entrepreneurs et dirigeants chrétiens qui va s'intituler « Entreprenons pour la maison commune ».
Oui, ce congrès est « Entreprenons sur la maison commune » qui reprend l'encyclique du pape François sur « Laudato si », qui de manière prophétique, disait il y a 5 ans maintenant, tout est lié. Il faut réconcilier l'entreprise, il faut réconcilier le social et il faut réconcilier l'environnemental. Et je pense que quelles que soient nos sensibilités spirituelles, on ne peut que partager ça. On ne peut que partager ça et qu'il faut le faire dans la confiance. Et je rejoins ce qu'évoquait Joseph à l'instant.
Merci beaucoup à tous les quatre. Merci beaucoup Philippe Royer, président des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, Joseph Touvenel, vice-président de la CFTC, Sébastien Lay, entrepreneur et économiste à l'Institut Thomas More, et bien entendu, comme tous les mardis, Jérôme Laverny, directeur national du réseau d'émissions Emploi Verdict. Et bien sur Facebook, vous êtes 81% à dire que pour sortir de la crise, il ne va pas falloir travailler plus. Vous n'êtes que 72% sur Twitter à dire la même chose. Merci à tous les quatre. Bonsoir Yvan Cujous.
Bonsoir mon Philippe David. Comment ça va?
Alors mon ça va très bien. Tu vois, on a parlé de travail. Toi, tu décontractes les gens le soir de 20h à 21h dans ton loft musique qui sortent du travail en usine, au bureau ou en télétravail. C'est un régal de t'écouter.
Alors tu sais mon Philippe David, tu es charmant et c'est adorable, mais ce soir c'est un peu particulier. La première demi-heure je vais les décontracter avec Jean-Philippe Janssen, le célèbre humoriste. Mais la deuxième partie ça risque d'être un peu plus tendu, parce qu'on va revenir sur les propos de Camélia Jordana. Et on aura Valérie Zetoun qui parlera, qui débattra avec une chanteuse qui s'appelle Agnès Bill. Ils sont complètement opposés sur l'idée, donc ça risque d'être un peu plus tendu là sur le coup.
Ah ben c'est bien, mais la musique va adoucir les mœurs. On sait que tu vas te mettre au piano et que tout va très bien se passer. On te retrouve dans quelques instants, mon cher Yvan.
Salut mon Fifi.